Chapitre 50.
Pourquoi as-tu mis tant de temps ?
Je n'ai pas réussi à retrouver mes six esprits, madame, expliqua Haché en entrant par la fenêtre de la voiture. J'ai dû laisser le message à Messire Galadon. Après cela, j'ai été rendre une petite visite au roi Telri.
Sa reine, ennuyée, se tapota la joue.
Alors, comment va-t-il ?
Galadon ou le roi, madame ?
Le roi.
Sa majesté flémarde au palais et s'amuse à faire attendre la moitié des membres de la noblesse aréloise, répondit le Séon, sur un ton où pointait le reproche.
J'ai cru comprendre également qu'il n'y aurait pas assez de domestiques femmes au goût de son Altesse.
« Nous avons échangé un idiot contre un autre », commenta sa reine en secouant la tête. « Je me demande bien comment Telri a fait pour amasser autant de biens et devenir duc. »«
Il n'y est pour rien, madame. Toute la gloire revient à son frère. Telri a hérité à la mort de ce dernier. »
Sa reine soupira, puis se retrouva projetée au fond de la voiture à cause des secousses. « Raten traîne-t-il toujours dans les parages ?»«
Oui, madame. Il voit même le roi tous les jours. »
« Mais qu'est-ce qu'ils attendent ?» commenta sa reine sur un ton impatient. « Pourquoi Telri ne se convertit-il pas ?»«
C'est la question que tout le monde se pose, madame. »
Sa reine fronça les sourcils. Ce petit jeu la déconcertait totalement. Tous savaient que Telri assistait à des offices d'hérétie. Il n'y avait strictement aucune raison pour qu'il fasse encore semblant de maintenir la religion Khorati. « Tu n'as rien entendu de nouveau à propos de la proclamation que le Gyorn est censé rédiger ?»
« Non, madame. » Elle bénit sa réponse. « Des rumeurs disent que Raten aurait commencé à écrire une circulaire pour obliger les citoyens d'Arelon à se convertir au Chuderet, sous peine de se retrouver en prison. Même si les marchands de la foire de printemps font bonne figure, une tension extrême règne dans la cité. »
Sa reine imaginait sans mal la suite des événements. Bientôt, Virne enverrait un aéropage de prêtres en Arelon. Ses moines guerriers les rejoindraient sans tarder. Telri, simple sympathisant, se convertirait et aurait bientôt autant de pouvoir qu'un pion sur un jeu d'échecs. D'ici à quelques années, l'Arelon ne se contenterait pas d'héberger des fidèles d'Hereti sur son sol. Elle deviendrait une province fjordelle. Lorsque l'ordonnance de Raten serait promulguée, les prêtres n'auraient pas besoin d'arrêter sa reine et ses compagnons. On les enfermerait. On les exécuterait, plus précisément. Il ne resterait alors plus aucun opposant. Virne tiendrait le monde civilisé entre ses mains, concrétisant enfin le mythe de l'ancien empire. Et pourtant, malgré cela, ses alliés tergiversaient toujours. Ils ne pensaient pas Telri capable de signer un tel document. Ce genre d'horreur n'avait pas cours dans leur monde. L'Arelon était en paix 10 ans. Les émeutes qui avaient secoué le pays 10 ans auparavant n'avaient pas vraiment réussi à leur faire de tort, à la différence des Élantriens. Ses amis voulaient agir avec prudence. Leur point de vue pouvait se défendre. Il était louable, mais ces gens ne voyaient pas que le temps jouait contre eux. Cela donnait à sa reine tout le loisir de pratiquer l'escrime. Et elle avait vraiment grand besoin de se défouler. La voiture venait de s'arrêter devant la demeure de Royal. Depuis que Telri habitait au palais royal, les dames de la cour s'entraînaient dans les jardins du vieux duc. Malgré le vent frais, il avait fait chaud ces jours derniers. Le printemps s'installait. Le duc royal avait donc accepté d'accueillir ces dames. Cela avait surpris sa reine d'apprendre qu'elles souhaitaient poursuivre leur formation. Mais elles avaient su se montrer tenaces. Voici un mois qu'elles se retrouvaient tous les 2 jours. Sa reine n'était visiblement pas la seule à avoir besoin de passer ses nerfs. Elle descendit de la voiture, vêtue de sa tenue blanche coutumière, arborant sa nouvelle perruque. Alors que la princesse contournait le manoir, elle entendit le claquement des cires au fond du jardin. Situé dans une partie ombragée, le pavillon au parquet de bois était vraiment l'endroit idéal pour s'entraîner. La plupart des femmes s'y trouvaient déjà. Elles accueillirent sa reine avec des sourires et des révérences. Elles se demandaient encore comment la princesse avait réussi à revenir d'Elantris vivante. Elles la considéraient avec d'autant plus de respect et de crainte. Sa reine les salua poliment de la tête. Elle éprouvait de la tendresse à l'égard de ces femmes, même si elle savait pertinemment qu'elle ne l'accepterait jamais vraiment. Lorsque la jeune femme retrouvait les dames de la cour pour l'entraînement, un curieux sentiment de nostalgie la saisissait. Il ne s'agissait pas uniquement d'esprit. À la vérité,
Elle s'était sentie acceptée à Elantris. Là-bas, personne ne l'avait traitée en princesse, mais en membre d'une communauté où chaque individu avait une importance vitale. Ces Elantriens aux tenues bariolées lui avaient prodigué de la chaleur humaine, l'avaient accueillie et lui avaient consacré du temps. Au cœur de la cité maudite entre toutes, Esprit avait réussi à fonder une société qui mettait en pratique les enseignements Korati. L'Église prônait l'unité. Sa reine trouvait ironique que les seules personnes à suivre ses préceptes fussent des parias. La jeune femme s'efforça de penser à autre chose. Elle commença son échauffement en allongeant une botte. Depuis l'adolescence, sa reine n'avait cessé de chercher l'amour et la reconnaissance. Lorsqu'elle les avait enfin eus à portée de main, la vie l'avait contrainte à y renoncer. Elle n'aurait su dire combien de temps son échauffement avait duré. Elle se sentait très en forme. Sa reine pensait à Elantris, à Domu, à ses propres sentiments ainsi qu'à l'incommensurable ironie de la vie. La jeune femme était baignée de sueur lorsqu'elle se rendit compte que les autres dames ne s'entraînaient plus. Surprise, elle leva les yeux. Les femmes se trouvaient à l'autre bout du pavillon. Elles bavardaient et semblaient observer quelque chose que sa reine n'arrivait pas à voir. Intriguée, elle les rejoignit, comptant sur sa haute taille pour assouvir sa curiosité. Elle se mit sur la pointe des pieds et aperçut un homme. Il portait de très belles soieries vertes et bleues, ainsi qu'un chapeau à plumes. Il avait la couleur marron-crème caractéristique des aristocrates du Laden, moins foncée que celle de Shuden, mais moins claire que celle de sa reine. Son visage jovial et rond lui donnait un air de dandy désinvolte. Un Dula, incontestablement. Le domestique au teint mat qui l'accompagnait était grand et corpulent, comme tous les Dulas de basse condition. Sa reine n'avait jamais vu ces deux hommes auparavant. « Que se passe-t-il ? »
« Il se nomme Kalo, madame, » expliqua Haché qui flottait près d'elle. « Il est arrivé il y a quelques minutes. Cet homme aurait réchappé au massacre perpétré l'année dernière en République du Laden. Il serait resté caché dans le sud de l'Arelon après ces événements jusqu'à ce qu'il apprenne que le roi Yadon cherchait quelqu'un pour reprendre la propriété du baron Edan. »
Sa reine fronça les sourcils. Cet inconnu l'intriguait. Elle entendit les femmes rire aux éclats à une remarque du nouveau venu. Ces dames gloussaient comme si elles avaient toujours connu le Dula. Tandis que les rires retombaient, l'homme aperçut sa reine. Il fit une belle révérence.
« Ah, la princesse sa reine, la plus belle femme d'Opellon !»«
Il ne faut pas croire les racontars, messire, » répliqua lentement sa reine.
« Non, en effet, seulement les vérités !»
Sa reine rougit malgré elle. Elle n'aimait pas du tout les hommes qui la faisaient rougir.
« Vous arrivez à un bien mauvais moment, monseigneur, » dit-elle en plissant les yeux. « Nous venons de nous entraîner. Nous ne portons pas franchement les tenues adéquates pour vous accueillir. »
« Je vous prie de bien vouloir excuser cette intrusion inopportune, votre Altesse. »
En dépit de ces paroles, il semblait se moquer totalement d'avoir interrompu leur réunion privée.
« À mon arrivée dans cette glorieuse cité, je suis immédiatement allé présenter mes hommages au palais où l'on m'a informé qu'il me faudrait attendre une semaine au moins avant de rencontrer le roi. J'ai donc inscrit mon nom sur une liste d'attente avant de demander à mon cocher de me faire visiter cette ville splendide. J'avais entendu parler de l'illustre duc royal. Il me fallait absolument lui rendre visite. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert toutes ces beautés dans ses jardins ! »
Sa reine grimaça, mais n'eut pas le temps de lui répondre. Le duc venait de faire son apparition. Le vieil homme avait fini par se rendre compte qu'un vagabond se promenait sur sa propriété. À l'approche du duc, Kaloo exécuta une révérence aussi ridicule que la précédente, battant l'air avec son chapeau à bord large. Puis, il se lança dans un véritable dithyrambe, exposant combien il se sentait honoré de rencontrer un homme aussi vénérable que royal.
« Je ne l'aime pas du tout, » dit discrètement sa reine, à Haché.
« Cela ne m'étonne pas, madame. » « Vous ne vous êtes jamais très bien entendu avec les aristocrates du Laden. »
« Il ne s'agit pas de ça. Quelque chose sonne faux chez lui. De plus, il n'a pas d'accent. »
« La plupart des citoyens de la République parlent laonique couramment, sans compter ceux qui vivent près de la frontière. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux Dulas. Ils n'avaient pas le moindre accent. »
Sa reine se contenta de froncer les sourcils. Tout en observant l'homme, elle comprit soudain pourquoi Kaloo lui paraissait étrange. Il était une caricature incarnée, avec tous les clichés de l'aristocrate du Laden. Ridiculement hautain, trop bien habillé, maniéré, et se moquant éperdument de savoir si sa présence dérangeait ses congénères. Ce Dula lui semblait trop Dula pour être vrai. Lorsque Kaloo eut fini de présenter ses hommages, il se lança dans le récit dramatisé de son arrivée en Arelon. Royal l'écouta de bout en bout sans cesser de sourire. Le duc avait eu l'occasion de commercer avec les Dulas à maintes reprises et en avait visiblement conclu que le mieux consistait à sourire et à hocher la tête de temps en temps. Une dame tendit une coupe à Calo. Il la remercia d'un sourire et avala le vin d'une seule traite sans interrompre son récit. Les Dulas ne se contentaient pas de raconter des histoires. Ces conteurs se servaient de tout leur corps. Les manches en soie et les plumes battaient l'air tandis que Calo mimait sa surprise à l'annonce de la mort de Yadon et du couronnement du nouveau roi. « Cela vous amuserait peut-être de vous joindre à nous, monseigneur ?» lança sa reine pour interrompre Calo, le seul moyen de stopper le monologue d'un Dula. Ce dernier cligna des yeux de surprise. « Me joindre à vous ?» demanda-t-il d'une voix hésitante, interrompant enfin le flot continu de ses paroles. Sa reine remarqua alors qu'il essayait de recomposer son personnage. Elle était de plus en plus convaincue que cet homme mentait sur son identité. Elle devait trouver un moyen de le mettre à l'épreuve et de le percer à jour. « Mais oui, monseigneur. Les citoyens du Laden passent pour être les plus fines lames de tout le royaume. Meilleurs que les Jaadoriens même. Je suis certaine que ces dames ici présentes seraient enchantées d'observer un maître d'armes à l'œuvre.
Cette proposition m'honore, votre très gracieuse majesté, mais je n'ai pas la tenue de... »«
Juste un assaut rapide, messire. » L'interrompit sa reine, qui ramassa son sac dont elle extirpa deux très belles cires, avec de vraies pointes non protégées au bout. Elle fit claquer une lame en l'air sans cesser de sourire au Dula.
« Très bien, » dit le Dula en jetant son chapeau au sol. « J'accepte, mais un échange rapide dans ce cas. »
La princesse resta immobile quelques secondes, se demandant s'il bluffait ou non. Elle n'avait pas vraiment eu l'intention de se battre avec lui. Si cela avait été le cas, elle n'aurait jamais choisi des lames dangereuses. Elle évalua la situation rapidement, puis, avec un haussement d'épaule décontracté, lui lança une cire. Elle comptait bien le démasquer, même si ce subterfuge le mettait dans une situation inconfortable, voire dangereuse. Calo retira sa veste turquoise claire. Il portait une chemise verte à jabot en dessous. Puis, il se mit aussitôt en position d'attaque, une main levée derrière lui, la pointe de son épée prête au combat.
« En garde !» lança sa reine avant d'attaquer.
Calo fit un bond en arrière pour éviter l'assaut. Il contra les coups de sa reine tout en tournoyant autour du duc royal, visiblement sidéré par la scène. Les dames poussèrent des cris de surprise lorsque sa reine fendit leur petit groupe pour venir faire claquer sa lame sous le nez du Dula stupéfait. Elle bondit sur l'estrade en bois, puis de l'estrade dans le jardin, pour atterrir sur l'herbe douce, les pieds nus. Si les dames de la cour trouvaient ce combat inconvenant, elles ne l'auraient manqué pour rien au monde. Sa reine les vit même les suivre, Calo et elle, lorsqu'ils gagnèrent une cour située au cœur des jardins de Royal. Le Dula faisait preuve d'une certaine dextérité, mais guère plus. Il perdait trop de temps à contrer les attaques de son adversaire et semblait incapable d'attaquer lui-même. En admettant qu'il appartint bien à l'aristocratie du Laden, il était étonnamment plus mauvais épéiste. Sa reine avait déjà affronté de piètres combattants, mais il lui avait toujours donné du fil à retordre. Calo se départit soudain de son expression apathique, visiblement résolu à se concentrer davantage sur les coups de sa reine avant que cette dernière ne le découpât en tranches. Ils traversèrent la cour. La jeune femme gagnait un peu plus de terrain à chaque attaque. Le Dula parut surpris de sentir des briques sous ses pieds. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il avait quitté le pavillon. Au moment où Calo trébucha sur une brique, sa reine bondit vers l'avant. Elle l'obligea à reculer. La cuisse du Dula toucha bientôt le bord de la fontaine. Il semblait coincé, c'est du moins ce que la jeune femme crut. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il sauterait dans la fontaine. L'homme donna un coup de pied dans l'eau pour asperger son adversaire, puis bondit à nouveau. Il se trouvait déjà derrière la jeune femme au moment où l'épée de sa reine transperça l'eau. La lame toucha quelque chose de mou. L'homme laissa échapper un cri de douleur, si discret qu'elle l'entendit à peine. Sa reine se retourna, l'épée levée, prête à attaquer, lorsqu'elle vit Calo, à genoux, la lame de son épée fichée dans la terre jusqu'à mi-hauteur, une belle fleur jaune à la main.
« Ah, madame !» déclara-t-il d'une voix dramatique. « Vous avez découvert mon secret. Je n'ai jamais été capable d'affronter une belle femme en combat singulier. Chaque fois, mon cœur chavire, mes genoux tremblent et mon épée refuse de frapper. »
Il baissa la tête, puis lui tendit la fleur. Les femmes groupées derrière lui poussèrent alors un soupir songeur. Après un moment d'hésitation, sa reine baissa finalement son arme. Où avait-il bien pu cueillir cette fleur? Elle accepta son cadeau à contre-cœur.
Ils savaient très bien tous les deux que cette parade sournoise permettait à Kaloo de s'en sortir de façon à peu près digne. Pourtant, Saren admirait son ingéniosité. Il avait réussi à ne pas se couvrir de ridicule et toutes les dames présentes semblaient totalement subjuguées par sa façon courtoise de faire la cour. La princesse étudia l'homme de plus près, cherchant la blessure qu'elle lui avait faite. Elle était certaine de l'avoir frappé au visage au moment où il avait bondi dans la fontaine, mais elle ne voyait aucune marque. Déroutée, elle regarda la pointe de son épée et ne vit pas la moindre trace de sang. Elle devait l'avoir manqué. Les femmes applaudirent le spectacle, puis entraînèrent le dandy vers le pavillon. L'homme se retourna et regarda Saren en souriant, pas de cette façon stupide et snob qu'elle lui connaissait, mais avec un air entendu, presque narquois. Un sourire qu'elle eut l'impression de reconnaître sans trop comprendre pourquoi. Puis, il fit une autre révérence parfaitement ridicule et se laissa conduire loin du jardin.